Trigger warning, cet épisode parle de violences sexuelles.
Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Cette semaine, on va parler d'une œuvre majeure comme la télévision en produit parfois, avec la série I May Destroy You de l'anglaise Michaela Coel, diffusée sur les chaînes HBO et en France sur OCS.
Sometimes it gets a bit much.
What do you do when it gets a bit much?
Try yoga, painting,
handicrafts.
I don't even think I know what handicrafts is.
Alors cette fiction sur la culture du viol condense toutes nos préoccupations actuelles sur les questions Black Lives Matter et le mouvement MeToo. Bienvenue, Kémis, salut.
Salut Clem.
Alors de quoi est-ce qu'il s'agit, puisque cette série a été présentée comme un drame sur le consentement? Est-ce que tu peux nous la présenter?
Ouais, tout à fait. I May Destroy You, en fait, c'est l'histoire d'Arabella, qui est une jeune trentenaire, autrice, qui a été repérée sur les internets et qui galère à produire son deuxième opus, I Can Relate, et qui est attaquée avec du GHB dans son verre et violée une nuit après une soirée.
I just smashed your phone.
I don't know.
Last night end.
Donc la série montre son processus de reconstruction et ce qu'il traverse, ce qui passe dans sa tête. Et la série suit aussi ses amis qui l'entourent, Terry et Kwame. Le titre « I May Destroy You » fait référence au fait de détruire la réputation de son agresseur, mais aussi comment une agression peut détruire la vie des victimes. Mais c'est qui en fait Michaela Coel, Clémentine?
Alors tu fais bien de poser la question, puisque ces dernières années, c'est surtout Phoebe Waller-Bridge qui a émergé. Donc ça, c'est l'autrice de la série Fleabag.
You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you?
Mais heureusement, l'Angleterre nous a aussi fait don de Michaela Coel et on est très reconnaissante. Sauf qu'évidemment, on parle beaucoup moins d'elle en France, rapport au racisme, n'est-ce pas?
Comme d'hab.
Et voilà, elle est à la fois actrice, scénariste, réalisatrice, productrice. Elle est donc anglaise et ses parents sont d'origine ghanéenne. D'ailleurs, la série célèbre cet héritage puisqu'on parle parfois Twi, qui est l'une des langues du Ghana. Donc, elle a grandi dans un quartier populaire de Londres. Et c'est une personnalité assez extravertie, voire un peu incontrôlable. Et ce qui est étonnant, c'est que après son adolescence, elle a intégré une église pentecôtiste très stricte. Elle a même lâché la fac de sciences politiques pour les rejoindre. Et ensuite, lorsqu'elle a fait une école d'art dramatique et qu'elle a rencontré d'autres étudiants laïcs, elle a perdu la foi et donc quitté cette église. Au cours des années suivantes, elle a tenu un blog dans lequel elle racontait son expérience, notamment de femmes noires à l'université. Elle a fait de la poésie, de la performance. Et en 2015, elle a écrit et joué et donc diffusé la série Chewing Gum. Je me demande si on n'en avait pas parlé ici, d'ailleurs.
Si, carrément.
Heavenly Father, thank you for preserving our virginity thus far. We will wait until we die. If it brings you glory.
Qui était adapté de sa pièce de théâtre qui s'appelait Chewing Gum Dreams et qui raconte donc le parcours d'une jeune ingénue dans un HLM londonien dans une famille très pieuse qui souhaite par-dessus tout perdre sa virginité.
J'adore cette série.
Moi aussi. Donc c'était vraiment l'émergence sur les écrans d'un personnage de comédie assez dément avec un visage d'une plasticité incroyable et surtout un regard assez lubrique sur la sexualité féminine. Et d'ailleurs, à l'époque, elle n'avait jamais écrit de série télé, donc elle avait été sur Google et elle avait regardé comment écrire une série. Et elle s'était inspirée de ses conseils d'écriture. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous recommande le portrait très détaillé dressé par E. Alex Young dans New York Magazine.
Ce qui est intéressant, c'est que dans I May Destroy You, elle s'est également inspirée de son vécu. C'est une valeur ajoutée, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une garantie de qualité. D'ailleurs, elle a écrit seule 191 brouillons du scénario.
Respect.
Et en fait, elle s'inspirait d'un viol qui lui est arrivé. Elle s'est également fait droguer quand elle a écrit sa première série, donc Chewing Gum. Et d'ailleurs, elle n'a pas tout de suite compris. Le lendemain, son téléphone était cassé, elle avait des blessures et en fait, elle a dû enquêter avec ses amis pour comprendre ce qui s'était passé pendant cette soirée. Elle a eu des flashbacks, mais il faut noter que beaucoup de victimes n'en ont aucun souvenir. Et d'ailleurs, elle a indiqué aux Inrock que le passage par l'écriture de la fiction participait au processus de guérison, et elle en a parlé en public lors d'une conférence en 2018 au Edinburgh TV Festival. Elle s'en est inspirée de ce moment de dénonciation dans la série. On l'écoute.
The other experience was a bit more life-changing. I was working overnight in the company's offices. I had an episode due at 7 a.m. I took a break and had a drink with a good friend who was nearby. I emerged into consciousness typing season 2, many hours later. I was lucky. I had a flashback. It turned out I'd been sexually assaulted by strangers. The first people I called after the police, before my own family, were the producers. How do we operate in this family of television when there is an emergency? Overnight, I saw them morph into a team of employers and employees alike, teetering back and forth between the line of knowing what normal human empathy is and not knowing what empathy is at all.
En vrai, en ce moment, Michaela Coel, c'est vraiment ma nouvelle inspiration en tant qu'artiste. Elle a fait plusieurs interviews, dont une que tu mentionnais tout à l'heure, Clémentine, où elle expliquait comment elle défend ses droits et sa valeur en tant qu'écrivaine. J'ai trouvé ça tellement éclairant. Elle participe vraiment à bousiller l'idée qu'en tant que jeune autrice, tu devrais remercier les gens qui donnent une place. Et elle a quand même refusé un deal à Netflix à $1 million pour garder ses droits. Bref, je suis méga fan.
Franchement, c'est une éthique de travail irréprochable.
C'est clair.
Alors, on va donner notre avis sur cette série. Toi, j'imagine que ça te parle, cet itinéraire d'une jeune autrice. Franchement, je trouve que d'ailleurs, les rendez-vous avec la maison d'édition qui instrumentalise ses traumatismes pour se faire de la thune sont vraiment mais incroyables. Quoi.
Je te jure. En fait, ça me parle carrément. Et puis, j'adore ce que Michaela fait aussi dans Chewing Gum. Elle le fait encore là. Elle déglamourise tout à fait la question de l'autrice. Après, je vais pas mentir, j'ai trouvé la série assez difficile à regarder. Hein. Alors même que je suis super attachée au personnage d'Arabella, j'ai pas pu regarder tous les épisodes d'un coup. C'est vraiment le genre de série anti-binge qu'il faut regarder en ayant peut-être quelque chose de plus fun à regarder après parce que c'est assez dur. Et toi, Clémentine, t'en as pensé quoi ?
Oui, bah, je suis d'accord avec toi. C'est une série qui peut être très triggering, donc qui peut être retraumatisante ou pénible à regarder. Je l'ai aussi trouvée assez déstabilisante. Finalement, en fait, elle trouve un équilibre dans l'écriture entre le drame et la légèreté. Mais après ce premier traumatisme, donc ce premier viol qui a lieu dans la série, je me suis vraiment demandé dans quelle direction le récit allait nous mener. Et en tout cas, je pense qu'on peut vraiment lui rendre hommage pour sa complexité et ses nuances qui sont très fidèles à la vie. Parce que voilà, dans la vie, des fois, c'est le bordel. Et au fait que le personnage, parfois aussi, soit horripilant et pas toujours sympathique. Pour moi, cette série, elle est une forme de continuation avec, en partie, hein, puisque Girls, il y avait quand même des problèmes de racisme.
C'est clair.
Mais avec voilà, le travail qui avait été commencé par la série Girls de Lena Dunham, qui était un travail de défrichage dans les années 2000 sur les sexualités, les pratiques, ce qu'on appelle, qui fait débat, les zones grises, l'illégalité, la banalité de la violence au quotidien. En fait, je crois que j'ai jamais vu autant d'agressions sexuelles dans une même série. Mmh. J'ai jamais eu autant de débats sur des scènes particulières qu'avec cette série. Mmh. Franchement, j'étais en PLS hyper souvent et voilà, je criais intérieurement. What the hell we gonna do now? Et elle montre qu'on peut boire un coup, manger des chips, rigoler avec son violeur sans se rendre compte de ce qui s'est passé. Par exemple, s'il n'y a pas eu d'agression physique. Elle montre aussi qu'on peut avoir un rapport consenti et ensuite suivi immédiatement d'un autre qui n'est pas consenti. D'ailleurs, merci les podcasts, puisque dans la série, le personnage prend conscience vraiment de la gravité des faits en écoutant un podcast, donc ça fait plaisir. Souvent, ce sont des personnages qui ne savent pas eux-mêmes ce qui est OK, ce qui est illégal, quelle est la frontière entre les deux, et je pense qu'en fait, c'est le cas de la plupart des gens. Donc on sent évidemment dans l'écriture qu'elle veut faire passer un message de manière très délibérée. D'ailleurs, il y a une scène de period sex, donc de sexe pendant les règles. Il y en avait une aussi dans la nouvelle mouture de The L Word, mais cette scène est assez incroyable dans tous les détails graphiques. Pour moi, c'est vraiment un modèle du genre, un modèle gore, quoi.
C'est clair.
Il y a aussi une scène de ce qu'on appelle en anglais stealthing, c'est-à-dire enlever un préservatif sans le dire. Et donc, tout ça, c'est aussi qualifié de viol. En fait, on se rend compte en regardant qu'il y a tellement de manières de violer quelqu'un qui sont extrêmement banales. Mmh. Et c'est vraiment vertigineux. C'est vraiment une très, très grande série sur les échos et l'onde de choc du mouvement MeToo, mais aussi du mouvement Black Lives Matter, qui permet d'avoir une discussion entre nous, notamment sur comment on dénonce ces faits de violence. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette scène est également une scène d'anthologie. Comment ces choses-là sont à la fois simples et compliquées, puisque parfois, dans la série, on ne sait plus qui est agresseur et qui est victime. Et en fait, on peut parfois cumuler ces deux casquettes. On voit très bien comment la culture du viol est excusée par les hommes et même encouragée et comment on ne s'en rend pas compte. Enfin voilà, comment on baigne dans des comportements problématiques. Mais tout cela sans tomber dans le relativisme. C'est-à-dire que tout n'est pas égal. Il y a des hiérarchies dans la gravité, mais ce sont des choses qui sont compliquées à démêler. D'ailleurs, j'ajouterais que il et elle ont embauché une coordinatrice d'intimité pour les scènes de sexe. D'ailleurs, c'est de plus en plus fréquent. Mmh. On écoute Michaela Coel parler de l'écriture de ces scènes.
In terms of writing this kind of content, which is it's delicate content, it's very delicate content, and I think for me, I always stayed with the perspective of the experiencer, the victim, the survivor, whatever you want to call this person. I never wrote outside imagining them. I got in and I became them, or like Arabella, I already was her. And I tried to step into the shoes of the character.
Du coup, elle raconte qu'elle se met vraiment à la place de la victime lorsqu'elle écrit ses scènes, à la place de la personne survivante.
Puis je trouve que ce qui est super intéressant dans cette série, et j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir vu une série qui montrait ça, c'est tous les mécanismes en fait de choc que t'as quand tu viens de te faire agresser et violer. T'en as pensé quoi toi, Clémentine ?
Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Et je trouve que d'ailleurs, l'écriture épouse vraiment ça en utilisant ce qu'on appelle le flux de la conscience, donc dans la tradition anglo-saxonne, à la fois de James Joyce, Virginia Woolf, etc. Et c'est une manière assez immersive de montrer, tu l'as dit, les mécanismes de la mémoire traumatique, le phénomène de sidération, de dissociation. Ça, c'est la psychotraumatologue Muriel Salmona qui en parle notamment en France. Donc les flashbacks, l'anxiété, des acouphènes aussi.
Flashbacks. Yeah, I see him a bit.
My friend is stressed.
Et on voit également tout le processus thérapeutique, donc chez la psy, mais également en thérapie de groupe, voilà, qui aide à se demander à quel point est-ce que cet événement définit ou pas ce personnage, à quel point est-ce qu'il est important, à quel point est-ce qu'on peut ou pas le mettre de côté, enfin en fait, quelle place ça doit prendre dans la vie de quelqu'un. Et pour elle, cette place, elle est assez claire, elle est sous son lit. Mmh. On verra dans le reste de la série. Mmh. Je trouve que c'est également intéressant de voir la représentation de la police. Mmh. Et c'est pas une représentation qui est centrale dans la série, puisque cette série est du point de vue de la personne survivante. Mmh. Donc la police intervient parfois bien et parfois mal, selon les personnages qui y sont confrontés. C'est aussi une série qui parle du rapport aux réseaux sociaux, notamment pour une jeune artiste émergente et qui pose la question des influenceurs et des influenceuses. Je pense que c'est important d'en parler. Moi, je trouve que la série essaye peut-être d'incorporer trop de choses en parlant de ça.
Personnellement, j'ai trouvé justement la finesse qui, d'écriture qui permettait de mettre en valeur le traumatisme était telle que ça, bah, finalement, je l'ai un peu mis de côté, j'avoue. Pour le coup, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'était tout ce qui concerne l'anxiété, les flashbacks. On est vraiment dans sa tête, on la suit de manière très, très, très proche, je trouve. Donc ça m'a marqué. Alors le côté sur les réseaux sociaux, c'était un peu facile, en fait.
Oui, alors on n'aura pas le temps d'aborder toutes ces questions, mais la série montre aussi de nombreuses facettes des cheveux. Mmh. Vous les découvrirez en la regardant. Et elle parle aussi des hommes et, et du fait qu'on peut être un homme noir et queer et que l'on peut aussi être agressé quand on est un homme. Il y a également la manière de filmer ce qu'on appelle les conduites à risque, c'est-à-dire que l'écriture va prendre à rebours un tic de cinéma et de série qui est souvent de punir une femme de fiction quand elle se conduit mal. Alors ici, tout cela a lieu sans jugement, puisque évidemment, il n'y a pas de corrélation entre le fait de sortir ou le fait de se droguer et le fait d'être violentée ou agressée. Voilà.
D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé que la série, elle était très réelle vis-à-vis de ça, en fait, vis-à-vis de ses comportements. C'est ça qui la rend aussi proche de nous et peut-être, je pense, aussi difficile à regarder. C'est que, bon, alors, sur la question de la drogue, chacun verra sa réalité ou pas, mais j'ai trouvé, en fait, que c'était très... Bah en fait, ça ressemblait à beaucoup de vies de gens qu'on connaît ou à de nos vies. Et ouais, il n'y a pas forcément ces jugements. Et puis, ça ne fait pas leçon de morale, en fait. C'est ça qui est bien.
Ouais, et alors, on va faire aussi un petit big up à la musique, puisque la rappeuse trans Mickey Blanco est featured sur la playlist. Il y a aussi la super chanson de Janelle Monae, Pink. On écoute. Pink like the inside of your baby. Pink behind all of the doors. Crazy. Et enfin, last but not least, vous apprécierez que les personnes blanches de cette série sont tellement trash de bout en bout, rien ne va. Voilà.
I have to love.
Voilà, bah dites-nous si vous avez regardé I May Destroy You, ce que vous en avez pensé. C'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf, nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long où justement on parlera de drogue. Et oui, salut, merci Kiamis.
Salut Clem.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Kiamis.
Mixé par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son, montage et coordination, Ashley Tola.